Marche pas? Ça marche? Il faut que je parle plus fort. Ok. Alors bonjour. Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel pour nous retrouver, pour louer, adorer et écouter sa parole ». C'est dans la joie que je vous accueille ce matin au nom de toute l'équipe qui a préparé le culte. Un bonjour tout spécial aux enfants qui nous rejoignent aussi pour un petit bout passé ensemble. Et bienvenue à chacune et chacun de vous. Lecture du psaume 100. Vous tous, habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Paraissez devant lui avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec des actions de grâce. Dansez par vie avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté demeure à toujours et sa fidélité subsiste d'âge en âge.
Bonjour à chacun, à chacune. Quelques annonces pour la semaine qui vient, parce que l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin, et il y a même de très belles choses qui se passent en semaine. J'aimerais encore juste préciser, pour ceux qui peut-être nous regarderont ensuite sur le site internet, qu'il n'y a ce matin pas de streaming. On a une équipe technique qui est en train de faire des miracles, littéralement, là derrière. Mais tout n'est pas tout à fait réglé, on espère que ça va tenir au niveau technique ce matin, merci. Après ce culte, le café, le thé, le sirop vous sont offerts, n'hésitez pas à vous arrêter avant de rentrer à la maison. Le mémo pour novembre et décembre, on a un peu de peine à parler de novembre et décembre déjà maintenant, mais quand même, ce mémo sera à disposition dimanche prochain, et dans la semaine en ligne sur notre site internet. Mardi soir à 20h15, j'aurai ici même le privilège d'animer un atelier biblique sur le Dieu qui fait alliance, et nous réfléchirons à ce moment-là à l'alliance du cœur, la loi de Moïse, l'alliance du cœur. Le mercredi à 20h, avec une avant et une après-soirée, le groupe de jeunes CTT Chrétiens Tout-Terrain se retrouve. N'hésitez pas à les rejoindre et à le faire savoir. C'est une super rencontre dans la semaine. Par ailleurs, CTT aura avec le groupe GPS un camp de ski autour de Noël du 27 décembre au 3 janvier. Et nos amis cherchent toujours un ou deux aides de cuisine. C'est assez génial à faire. Si jamais quelqu'un souhaite faire aide de cuisine, il faudrait s'adresser à Maïka. Maïka, lève-toi, s'il te plaît. Je ne te demande pas de faire une petite danse, mais n'hésitez pas à vous adresser à Maïka si jamais vous étiez disponible pour être aide de cuisine. Jeudi soir, nous aurons une rencontre du conseil à 19h. Et puis je vais demander à Claude et Anne-Marie de s'approcher. Claude Parnigoni et Anne-Marie Wenger pour deux annonces.
Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annick Dubost, la fille de Blaise Favarger. Voilà, on voulait vous rendre attentifs pour les paquets de Noël pour les pays de l'Est. On a vraiment besoin de vous. C'est vrai qu'il fait chaud, il n'y a pas de neige. On a de la peine à se projeter jusque là-bas, mais nous, on est coincés un peu par le temps. Il faut absolument qu'on commence les paquets dans 10 jours. Donc, il nous manque pas mal de choses encore. On a besoin aussi de vos inscriptions pour faire les paquets de Noël. C'est vrai qu'on avait mis des horaires un peu coincés, donc on a étendu au soir ou au matin. N'hésitez pas à vous inscrire. Après, on fera le mailing point de toutes les inscriptions pour pouvoir avoir le plus de monde possible. On a vraiment, vraiment besoin de vous. On est très, très peu. Voilà. Le dimanche prochain, on commence la confection des paquets de Noël pour les enfants. Donc, si vous avez encore des choses à donner pour les enfants, il faut les amener avant le culte. Hein, c'est ça. Voilà. Je laisse la parole à Anne-Marie.
Et donc, on a aussi au niveau des fonds pour acheter les denrées, où on est à peu près à la moitié de ce qu'on aurait besoin pour faire les paquets habituels qu'on fait. Habituellement, on fait plus de 80 paquets. Là, on vise 80 paquets. Donc, il y a des tirelires en carton qui sont à disposition à plusieurs endroits au foyer à la sortie. Donc, merci pour vos dons. Autrement, vous pouvez aussi apporter des paquets complètement confectionnés que vous faites à la maison. Pour ça, il y a des papillons où il y a une liste très précise de ce que vous devez mettre dans les paquets. Il faut mettre tout ce qui est sur la liste et rien de plus. Donc, c'est une question de distribution équitable des paquets et aussi pour qu'il y ait un passage de douane qui soit sans problème. On peut faire foirer, façon de parler, toute l'action si au niveau du contenu des paquets, on ne se tient pas à ce qui est prescrit. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements, ben, on est à disposition très volontiers. Puis, merci pour votre aide.
Voilà, moi je vous parle de la kermesse œcuménique de Mérin qui aura lieu samedi et dimanche prochain. Donc nous aurons un stand de livres, une librairie biblique. On aura aussi des maquillages et là j'ai trouvé toutes les maquilleuses. Donc les enfants, si vous voulez venir y participer, ça sera très sympa. C'est toujours très convivial cette kermesse. C'est aussi l'occasion de notre église d'être présente et puis de pouvoir donner un témoignage avec livres et Bible et calendrier un peu dans toutes les langues. Donc j'ai la liste ici pour remplir, il me manque quelques cases, au sens figuré du terme. Et puis, donc, pour compléter, c'est volontiers encore que je prends encore quelques inscriptions. Donc venez vers moi, vous pourrez participer. Et je vous dis, c'est convivial et c'est en même temps un moment de témoignage. Merci beaucoup. Donc c'est les 5 et 6 novembre, donc samedi et dimanche prochain. Merci.
Nous arrivons au terme de notre temps d'annonce. Et je termine en vous remerciant pour votre générosité et en vous rappelant que notre Église vit grâce à nos dons. Vous avez la possibilité d'exercer votre générosité dans la boîte, au fond, encore mieux sur le CCP de l'Église ou par Twint. Merci beaucoup.
Et nous voulons remettre ce culte dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remettons ce culte que nous voulons vivre ensemble sous ton regard. Nous t'apportons nos frères et sœurs disséminés de par le monde, libres ou persécutés, en demandant sur eux tes bénédictions et tes encouragements. Libère-nous de toute préoccupation. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que ta parole puisse nous rejoindre en profondeur et porter du fruit. Béni soit ton nom. Amen.
Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité.
Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité.
L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable.
Que chaque génération célèbre les œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir.
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur.
On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice.
L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté.
L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Le premier chant, je vous invite à vous lever. C'est un chant énergique pour célébrer notre Seigneur. Et je vous invite à taper dans les mains pour chanter « Dieu, tu es bon ».
Génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es.
Tu es bon.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Nous,
les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te
ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations.
L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.
Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu.
Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit.
L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres.
L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité.
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve.
C'était le psaume 145. Maintenant, pour transition, on va passer à un chant beaucoup plus tendre du groupe Glorious, qui s'appelle « Relever le faible ».
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Dans le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie, puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
On n'a pas eu l'occasion de les entraîner. On va, on va...
et nous voulons encore prier pour ces enfants. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tous ces enfants que tu nous donnes. Merci pour tous ces témoins de demain. Et nous t'apportons leur temps de réflexion en bas, en groupe, avec les moniteurs que nous voulons également te remettre. Merci de les habiter, merci de parler à tous ces cœurs encore jeunes, encore petits, mais qui ont soif aussi d'entendre ce que tu as en réserve pour eux. Alors Seigneur, merci de bénir ce temps qu'ils vont vivre ensemble. Amen. En glanant dans mes livres, dans des papiers, j'ai trouvé un beau texte pour introduire le temps de scène. Au-dessus de lui, en pleine lumière, le dernier acte de son jugement se déroulait. Dans quelques instants, les soldats viendraient le chercher pour lui faire entendre la sentence. Mais tout cela était déjà loin pour lui. Déjà, il vivait intensément le dernier acte de sa vie. Il sentait la douleur des clous s'enfonçant dans sa chair, la brûlure de la haine sur son âme. Ceux qui croyaient le condamner ne savaient pas qu'en fait, il mourait librement, volontairement, par amour pour eux. Dans sa mort, il allait réunir les opprimés et les oppresseurs, les riches et les pauvres, les bien portants et les malades, pour leur donner à tous la vie qui ne connaît plus de limites, de souffrance, d'injustice et de peine. Alors qu'il gravissait lentement la colline, plié sous le poids de la croix, il aurait voulu se dresser une dernière fois et crier à tous les opprimés : ne pleurez plus. Déjà se lève à l'horizon le soleil de Pâques, le soleil de la vie, le soleil de l'espoir. Jésus n'est pas mort de sa mort. Il est mort de notre mort pour vaincre en nous la mort. Pour introduire la prédication de Philippe, nous allons faire une première lecture dans l'Épître aux Romains 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis aussi d'avoir accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Bien plus encore, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne peut tromper parce que l'amour de Dieu a rempli nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Or, à peine voudrait-on mourir pour un juste, peut-être cependant pour un homme de bien. Quelqu'un se résoudrait-il à mourir ?
Mais Dieu a fait éclater son amour pour nous en ceci. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Combien plus, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui du courroux de Dieu ?
Car si, lorsque nous étions les ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par sa vie ?
Disons plus encore, nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons obtenu maintenant la réconciliation.
Nous allons partager le repas du Seigneur dans quelques instants. Et j'aimerais, pour l'introduire, lire deux versets en Jean 15, dans la bouche du Seigneur Jésus, bien sûr. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il l'a fait. Ce ne sont pas que des paroles. Il l'a fait. Et pour nous en souvenir, nous prenons le pain et le vin à la suite de l'invitation du Seigneur qui a pris du vin, qui l'a distribué à ses disciples, qui a pris du pain, qui l'a distribué à ses disciples en leur rappelant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Mangez-en tous. Ceci est mon sang qui est donné pour vous. Buvez-en tous. »
Nous passons à la distribution de la Sainte Cène. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a des gobelets roses au milieu pour le raisin sans alcool et autour le vin. Nous attendrons que tout le monde a bien reçu le pain et le vin pour pouvoir prendre la Sainte Cène à la fin tous ensemble. Et pendant ce temps, un temps de prière communautaire est ouvert. Donc prenez parole si vous le désirez.
Est-ce que tous ceux qui souhaitent communier sont servis ? Sinon, s'il vous plaît, levez la main. Non, c'est vous avant. que nous prenions la scène ensemble. Alors je vous invite à prendre la scène en même temps que nous tous, nous le faisons ensemble.
Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche.
J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé.
Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté,
nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Psaume 78.
Nous chantons « Parle-nous ». Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance, et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire.
Apprends-nous à te
foi, nous te suivrons pas à pas.
des amateurs de cinéma parmi nous ? De bons films d'il y a quelques années. Je ne parle pas des Marvel, Lionel, hein, de bons films. Non, mais... Est-ce que vous connaissez le film qui a gagné en 2013 quasiment toutes les récompenses des Césars et qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger ? Il dit quelque chose ? 2013, on était tous nés. Non. Avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Un film de Michael Haneke qui tient en un mot. Amour. Amour. Un chef-d'œuvre. Un film qui raconte de façon très sobre l'histoire d'un couple âgé dont la femme est atteinte de troubles neurologiques sévères, c'est Emmanuel Riva, et la manière dont son mari, incarné par Jean-Louis Trintignant, va prendre soin d'elle. C'est bouleversant. Ça s'appelle Amour. La vie est définitivement une affaire d'amour. Tout le reste n'est que garniture. L'amour reçu, l'amour donné. L'amour reçu, démontré, que nous avons célébré au travers de la table du Seigneur, sa vie donnée pour nous. Et l'amour démontré, celui qu'il nous invite à nous démontrer les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amour. Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur de participer à un mariage. Et pour la cérémonie, les jeunes mariés m'avaient demandé de lire un chapitre de l'épître de Paul aux Corinthiens, à savoir le fameux chapitre 13, qui parle de l'amour. Et j'ai demandé aux pasteur qui présidait cette cérémonie, s'il souhaitait que j'évoque brièvement le contexte de ce chapitre, avant de lire le texte. Et pour lui, ce n'était pas nécessaire. Et j'ai trouvé qu'il y avait là deux choses étonnantes. La première chose étonnante, c'est de citer un texte de Paul sur l'amour. Parce que généralement, y compris dans certaines franges évangéliques, on ne se prive pas trop de critiquer l'apôtre Paul en disant que s'il y en a bien un qui est miso, ben c'est lui, qu'il est contre les femmes, que Paul c'est un homme insensible, un pharisien dormant, et qu'il a fait dévier le christianisme de ses débuts. Alors, c'est pas vrai, bien sûr. Mais c'est ce que l'on dit dans certains milieux woke. Puis en même temps, ben on va le faire lire à un mariage. Je trouve qu'on marche sur la tête parfois. Alors Paul, il n'est pas miso. Puis il n'est pas si affreux que cela. Je pense même qu'il n'est pas affreux du tout. Et nous verrons que 1 Corinthiens 13 le prouve. La deuxième chose, à peine moins étonnante, c'est que l'on cite généralement ce passage dans 1 Corinthiens 13 sans trop prendre garde à ce qui vient juste avant et à ce qui va venir juste après. C'est ce qu'on appelle le contexte. Et juste avant et juste après, nous avons tout un développement sur les dons de l'esprit et sur les désordres du culte à Corinthe. D'une part, au chapitre 12, un désordre relationnel, parce que certains pensaient qu'ils étaient plus doués, plus spirituels que d'autres, et que c'était dans le cadre du culte même de l'Église qu'ils allaient pouvoir prouver qu'ils étaient plus forts que les autres. Et d'autre part, au chapitre 14, nous le verrons le 20 novembre prochain, un désordre liturgique, si je puis dire. Parce que certains tenaient à s'exprimer dans des langues extatiques, sans se préoccuper du fait que personne ne les comprenait et qu'ils donnaient l'impression que les chrétiens étaient des dingos. Alors, parler de l'amour au milieu de tout ça, au chapitre 13, est-ce que Paul n'est pas un peu hors sujet ? Ben non, en fait. Parce qu'il va venir démontrer, comme il l'a promis à la fin du chapitre 12, que l'amour est la voie par excellence. La voie par excellence pour vivre en Église. Et je vous propose maintenant d'écouter la lecture de ce chapitre. Tout dire, tout connaître, tout pouvoir, mais sans amour, je ne suis rien. Je peux impressionner par mes paroles, je peux impressionner par mes connaissances, je peux impressionner par mes capacités, mais si je n'aime pas, ça ne vaut rien. Écoutons la lecture du chapitre 13.
Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il n'est pas présomptueux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'aigrit pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, le don des langues cessera, la connaissance sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est imparfait sera aboli.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de ce qui tenait de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, confusément. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais imparfaitement. Alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Tout dire, tout connaître, tout pouvoir, mais sans amour, je ne suis rien. Je peux impressionner par mes paroles, par ma connaissance ou par mes capacités. Mais si je n'aime pas, ça ne vaut rien. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec la question des dons de l'esprit, chapitre 12. Au premier verset, ici, dans Corinthiens 13, « Si je parlais les langues des hommes et des anges. » Ces gens qui entrent en transe à Corinthe, ces gens qui prennent la parole pour ne rien dire de compréhensible, ces gens qui se mettent en évidence, ces gens qui semblent être sur un plan spirituel supérieur aux autres, ces gens qui donnent peut-être envie aux autres, sans l'amour, ils sont rien. Au verset 2, ceux qui disent des choses non plus en langue extraordinaire, mais en langue ordinaire, sont logés exactement à la même enseigne. Ces gens qui ont une parole qui édifie, qui encourage, qui exhorte, qui instruit, autrement dit, pour utiliser le mot du premier siècle, ces gens qui prophétisent. La Bible n'a pas de secret pour eux. Ils impressionnent par leur connaissance. On n'a même aucune raison de penser qu'ils pourraient enseigner des choses fausses. Ces enseignants, ces prédicateurs, ces gens qui témoignent, qui partagent une pensée particulière, ces gens qui savent s'exprimer, qui en imposent peut-être, sans l'amour, ils ne sont rien. L'apôtre Paul lui-même, qui était plutôt gâté en matière de révélation et de connaissance et de compétence, l'apôtre Paul lui-même le dit, sans l'amour, il n'est rien. Et au verset 3, on a d'autres exemples de dons spirituels encore. La générosité, qui est mentionnée parmi d'autres dons en Romains 12 aussi. La miséricorde, c'est-à-dire l'aide aux pauvres, le dévouement jusqu'au martyr, la foi qui transporte les montagnes, la foi qui évangélise la Chine, qui fonde des orphelinats, qui implante des églises en Suisse ou ailleurs. Si nous pratiquons cela sans amour, nous ne sommes rien, quand bien même l'Église et le monde nous admireraient. Nous sommes rien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ce beau passage sur l'amour, il est assez polémique, en fait. Il est piquant. Il est beaucoup moins lisse ou romantique qu'il n'y paraît. Est-ce que nous nous croyons spirituels ? Est-ce que nous nous croyons spirituels ? Pourquoi est-ce que nous dévalorisons alors des frères et des sœurs ? Ce n'est ni la connaissance, ni la faculté de bien s'exprimer, ni même nos capacités qui attestent de notre spiritualité, ni même notre durée dans la vie chrétienne, ni même notre nom, notre origine. Ce qui atteste notre vie chrétienne, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Laissez tomber les stratégies. Laissez tomber les visions d'Église. Laissez tomber les grands programmes à grande échelle qui demandent des centaines d'heures d'investissement, des centaines de milliers de francs. Pratiquez l'amour. Et je trouve que c'est très actuel ce que l'apôtre Paul nous dit ici. La vingtaine de dons spirituels qui sont mentionnés dans la Bible, et tous les autres aussi, sont importants. Les dons spirituels et tous les autres aussi, il faut les mettre en œuvre, c'est important. Mais aimer, c'est encore plus important. C'est le résumé de la loi de Dieu. C'est la réduction de la réduction de la réduction de la loi de Dieu. Aimer, c'est le plus grand des commandements. C'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. Se juger, se quereller, se défier, se diviser, même pour la gloire du Saint-Esprit, cela n'a pas de sens. Car l'amour, fruit de l'Esprit, est au-dessus de tout cela. Mais c'est quoi l'amour? Parce qu'on peut aimer le statut Facebook ou Insta de ses amis. On peut aimer une vidéo TikTok. On aime le chocolat noir ou au lait. On aime le bon vin. On aime son chien, son chat. On aime ses enfants, sa femme, ses parents. On aime sa commune, son pays, son canton. On aime Dieu. On aime l'Église. Quantité de chansons, de films vantent entre autres l'amour adultère. Celui qui se pratique en trahissant quelqu'un d'autre. Et pourtant, on le valorise, ça, l'amour adultère. Des gens aiment des choses qui sont excessives, voire nocives, voire toxiques. Alors c'est quoi l'amour? Le coup de foudre? La nuit passée dans les bras d'un ou d'une inconnue? La dépendance à une personne ou à une substance? On parle même de l'industrie de l'amour. Quelle horreur! Cela paraît tellement compliqué que certaines traditions bibliques évitent de parler d'amour ici. Ils reprennent le vieux mot venu du latin, la charité. Seulement la charité pour nous aujourd'hui, la charité c'est la petite pièce que l'on met dans la tasse d'une mendiante devant la gare ou l'église ou les horodateurs. Ça c'est la charité. En français moderne, la charité, en fait, c'est assez minable. Elle n'existe plus dans son sens noble que dans certains cercles très cultivés. Mais aimer ou amour, ça reste très actuel, non? Aimer, amour, ces mots ne sont pas les seuls sur la page. On aime quelque chose ou on aime quelqu'un. Et ce que l'on aime détermine le sens du mot. Personne ici n'imagine que j'aime la randonnée de la même manière que j'aime ma femme. J'utilise le même mot, mais l'objet du mot détermine son sens. Si je dois choisir entre les deux, je choisis ma femme. Et pourtant, j'aime les deux. Ou personne n'imagine que j'aime ma femme de la même manière que j'aime les bons vins genevois. Le complément détermine le sens précis du verbe. De quoi parle-t-on alors dans 1 Corinthiens 13? On ne parle pas d'aimer la littérature islandaise ou le jardinage. On ne parle pas d'aimer un statut Facebook ou le crochet. On ne parle pas d'aimer sa patrie, on ne parle même pas d'aimer Dieu. On parle d'aimer des êtres humains. On parle d'aimer son prochain, sa prochaine, On ne parle pas de l'amour que l'on reçoit et qui nous gratifie. On parle de l'amour qui se donne, qui est généreux, qui prend vraiment à cœur les intérêts de quelqu'un d'autre. Nous devrions bien sûr avoir pour notre conjoint, pour nos enfants, un amour particulier, bien sûr. Mais il ne peut pas être moins fort, moins généreux que l'amour du prochain que Paul évoque ici. Le contexte d'un Corinthiens 13 parle exclusivement de relations en Église. Notre amour pour nos frères et sœurs en Christ doit être plus fort encore que l'amour que nous avons pour les êtres humains en général. Mais si Paul parle ici en des termes très généraux, c'est pour que nous n'ayons aucune excuse. Nous n'allons pas faire comme ce fameux pharisien qui demandait à Jésus de définir le mot prochain. Qui est mon prochain ? Pour qu'il ait, lui, la liberté d'aimer certains humains et pas d'autres. Ton prochain, lui dit Jésus, c'est l'étranger. Ton prochain, c'est le blessé. Aime-le sans discuter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pardonnez-moi, mais je vais enfoncer le clou. Je vais tourner le couteau dans la plaie. Je vais vous donner des bâtons pour me faire battre. Parce que mon amour des autres est tellement loin d'être parfait. Je vais empiler devant vous un tas de pierres que vous aurez le droit de prendre et de jeter sur moi, à condition d'être vous-même sans reproche. Regardez toute la partie qui se situe dans les versets 4 à 7. Je ne sais pas si on arrive à projeter la slide. Non, les versets 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est comme une checklist en fait. On vérifie au fur et à mesure si on arrive à tout cocher. Et si on arrive à tout cocher, alors on peut décoller. On est bon pour le ciel. Si on ne peut pas tout cocher, on revérifie, on se tourne vers le mécano, on appelle la tour de contrôle, on répare. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sur la piste et pas toujours en état de voler. Mais un jour, nous décollerons pour de bon. L'amour est patient. Jésus a patienté 3 ans assez intenses avec ses disciples. Et ça fait 34 ans qu'il patiente avec moi, ou plutôt 50 ans. Je vais m'en souvenir. L'amour est plein de bonté, ou alors l'amour est serviable. L'amour n'attend pas qu'on lui rende service. Il y pense déjà, il agit, il rend service en premier. L'amour n'est pas envieux. Quand les autres sont dans le bonheur, l'amour est heureux pour eux. Il n'est pas jaloux, il n'est pas mesquin, regardant ou calculateur. Je pourrais déjà m'arrêter là. Pour moi, ça suffit. J'ai de quoi me remettre en question. On arrête ou on continue ? L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il ne se vante pas. Autrement dit, il n'exagère jamais ses propres qualités. Il ne diminue pas l'autre pour se rehausser en comparaison. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il peut donc écouter les autres. Il peut se remettre en question. Il peut penser qu'il n'est pas arrivé, qu'il n'est pas parvenu, qu'il ne sait pas tout, qu'il a encore besoin d'apprendre. Il peut reconnaître ses torts. L'amour reconnaît humblement des limites, ses propres limites. L'amour ne fait rien d'inconvenant, de malhonnête, de honteux. Il a du respect pour autrui, pour chacun, pour chacune, pour tous, pour toutes. Il intègre que la vie ne se vit pas tout seul, mais avec les autres, et que rien ne m'autorise à blesser l'autre. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, comme le Seigneur Jésus, qui s'est humilié en devenant en homme et en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres, il ne s'irrite pas. C'est donc que l'amour laisse une chance toujours renouvelée aux autres. Il ne ferme pas la porte. L'amour ne trame pas le mal, ou selon les traductions, il ne tient pas compte du mal. C'est donc qu'il ne ressasse pas des torts anciens. Il ne rêve pas de revanche ou de vengeance. L'amour ne se réjouit pas de choses injustes, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il n'accepte pas le mensonge, il n'accepte pas l'injustice. Tout ce qui est tordu l'abîme. Il reste encore quelqu'un debout dans l'église ? Attendez, il reste encore le verset 7. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. En toutes circonstances, l'amour pardonne. Pour quelqu'un qui a subi une réelle injustice, il est important, nécessaire, que cette injustice soit reconnue. Il faut que la justice passe. Puis vient, peut-être, j'espère, vraiment, la possibilité du pardon. Nous pouvons penser à Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. D'avance, Jésus s'est positionné comme un intercesseur sans haine. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. En toutes circonstances, l'amour fait confiance. Il croit le meilleur des autres. Il porte du crédit aux autres. Il valorise les autres. L'amour espère. Tant qu'il reste des chances, rien n'est jamais perdu. L'amour espère. Et enfin, l'amour persévère. Il poursuit. Il ne s'arrête pas en route, il reste en route, il ne baisse pas les bras. Ça nous assomme ? C'est très bien, c'est très bien. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont en route qui peuvent avancer avec Dieu. Les gens parfaits, ils peuvent passer leur chemin. Il n'y a que des pécheurs qui peuvent se trouver en communion les uns avec les autres au pied de la croix. C'est pour ça que nous prenons la scène ensemble. Ça nous encourage. Ça nous encourage à progresser dans l'amour. Je l'espère. Nous ne lisons pas ce passage pour nous culpabiliser, mais pour être en état de marche et pour aller plus loin. Si nous voulons un exemple de l'amour qui est décrit ici, il n'y en a qu'un. Et c'est Jésus. Et comme le serviteur n'est pas plus grand que son maître, autant prendre la peine de jeter un regard sur le maître. Patient avec ses disciples. Patient. Preuve que la patience est une qualité humaine. Seigneur, je suis tellement impatient. Serviable. Preuve qu'il n'est pas déshonorant de servir. J'étais bouleversé hier matin, c'est pas dans mes notes. C'était la fin de la grande semaine, Roger nous dira quelques mots tout à l'heure. Ces gens sont exceptionnels. Faire très court, j'ai été profondément bouleversé par ce à quoi j'ai assisté dans ces locaux cette semaine. De la part des encadrants, qu'on donnait, c'est un truc de dingue. Mais hier matin, toute l'équipe était là pour remettre cette église qui ressemblait à Hiroshima en état pour nous accueillir ce matin. L'amour est serviable. Il ne se sert pas, il sert. Compatissant. L'amour est compatissant. Compatissant avec qui ? Avec des gens que la vie a malmenés. Preuve que la compassion doit nous accompagner dans notre rapport aux autres. Jésus, toujours, aimant mais ferme, sévère même, en particulier avec les adeptes du faux semblant et de la religion de surface, ça l'insupportait. Ni paresseux, ni mou, ambitieux pour les autres, mettant en avant les possibles du changement, preuve que l'on peut, que l'on doit faire avec des attentes élevées pour nos prochains, quel que soit leur âge. Pour aimer, mes amis, il faut du caractère. Aimer, ce n'est pas toujours céder à l'autre. C'est vouloir le bien de l'autre, au prix même d'éventuels conflits, parce que l'amour est ambitieux et l'amour est exigeant. Je pense à cette femme que l'on a traînée devant Jésus pour l'accuser d'adultère, Jean 8. L'accuser d'adultère. Elle seule. On peut être adultère tout seul. Enfin bon. Personne ne te condamne, lui demande Jésus. Moi non plus. Va et ne pêche plus. L'amour de Christ est plein de compassion, mais en même temps pur et exigeant. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ce n'est pas l'amour indifférence que rien ne touche, ni l'amour tolérance que rien ne heurte. C'est l'amour vérité, c'est l'amour sainteté. Mais attention, si nous voulons être par amour exigeants avec les autres, à commencer par nos enfants, un frère ou une sœur en Christ, un collègue, soyons d'abord pareillement exigeants avec nous-mêmes. Je conclus. Notre chapitre se termine avec une dernière comparaison entre l'amour fruit de l'esprit et certains dons de l'esprit. Au verset 8 et 9, langue, prophétie et connaissance cesseront. Ça va s'arrêter, tout ce cinéma. Aujourd'hui, notre connaissance en particulier est comme celle d'un enfant, dit l'apôtre Paul, comme l'image un peu brouillée que renvoyaient les miroirs métalliques de l'Antiquité. C'est comme ça que nous voyons. Et tous ces dons, accordés par l'Esprit pour l'Église, si diversifiés, sont néanmoins des dons partiels et provisoires appelés à s'éteindre un jour. Contrairement à l'amour, l'amour, lui, est éternel. Par-dessus tout, c'est l'amour qu'il faut valoriser, c'est l'amour qu'il faut cultiver, c'est l'amour qu'il faut démontrer. C'est l'avant-goût du ciel. Comme la foi, comme l'espérance, mais le plus grand, c'est l'amour. Alors tendons vers l'amour, et je vous le promets, nous décollerons. Amen.
Après cette prédication tellement riche que je vous propose un temps de réflexion personnelle. Je vous propose quelques mots, quelques verbes, et je vous laisse les intégrer, les ressentir, peut-être en garder un ou deux pour la suite. Vivre, respirer, découvrir, entendre, sentir, voir, peindre, poser des mots, se réjouir, pleurer, rire, vivre et mourir, vivre pour aimer. D'abord soi-même, créé à l'image de Dieu, aimer les autres, aimer Dieu, je n'avais pas vu, voilà. Aimer Dieu profondément, passionnément, lui, l'auteur de notre joie et de notre espérance.
Je vous invite à vous lever pour lire ensemble cette prière communautaire qui, fort heureusement, s'affiche ici et là-bas. Dieu et Père, nous nous tenons devant toi, à la fois conscients de la faiblesse de notre amour et forts du tien. Nous te demandons humblement de nous pardonner nos actes manqués et de nous accorder les ressources de ta grâce pour progresser. Par la force de ton esprit répandu, rends-nous plus aimants et cohérents pour notre bien et celui de nos prochains et pour l'honneur de ton nom. Amen.
Chantons Père, unis-nous tous.
Merci au groupe Mission, à Paul Robert, de nous introduire dans un témoignage.
Bonjour à chacun. Parmi nous, nous avons, bien sûr, dans notre église, nos amis porteurs qui sont là. Et ils ont un fils qui s'appelle Joshua, et qui est actuellement missionnaire, disons comme ça, au Brésil. Et alors, nous sommes heureux de l'accueillir ce matin, qu'il nous dise quelques mots de son travail là-bas, qu'il se présente peut-être aussi, et que nous puissions aussi prier pour lui tout à l'heure. Alors voilà, je te laisse la parole en te remerciant d'être avec nous. Il est accompagné par l'Église évangélique de Mérin au travers du groupe Mission. À toi la parole.
Merci beaucoup, Paul Robert. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Comme Paul Robert a dit, je m'appelle Josh Porter, je suis fils de David et Perle. Et ça fait 5 ans, depuis 2017, que je travaille au Brésil comme missionnaire avec Pace Movement. C'est une organisation missionnaire internationale. Et du coup, ça fait 5 ans que je parle plus souvent le portugais que le français. Donc aujourd'hui, vous avez le plaisir d'entendre un Irlandais parler le français avec un accent brésilien. Tu peux passer le slide, s'il te plaît, merci. Aujourd'hui, je suis placé à São Paulo, la plus grande ville du Brésil. Je suis leader d'une équipe de 7 missionnaires qui travaillent pour grandir notre travail au Brésil, au sein des écoles et au sein des adolescents. Et j'aimerais remercier le groupe Mission, Paul Robert et vous tous, les membres de l'Église, pour votre soutien en prière au long de cette année de 2022. C'est un grand encouragement savoir qu'il y a des gens comme vous qui prient pour le Brésil, qui prient pour les écoles du Brésil, qui prient aussi pour moi et pour mon travail là. Tu peux passer. Tout à gauche dans cette photo, vous voyez Auguste. Auguste, en 2019, il s'est inscrit dans notre programme de Dispula à l'âge de 15 ans. Il a été formé par nos missionnaires en études bibliques pour être leader de groupe d'études avec d'autres ados, aussi dans la formation des disciples. Et il a été formé pour atteindre les perdus à travers des campagnes d'évangélisation dans sa communauté locale. Et Auguste a été touché non pas seulement par la formation qu'il a reçue, non pas seulement par les missionnaires qui ont travaillé avec lui, mais aussi par l'opportunité qu'il a vue de pouvoir atteindre sa communauté locale. Alors à partir d'août de cette année, de 2022, Auguste est devenu un missionnaire à temps plein avec nous, avec Pace Movement. Il travaille aujourd'hui dans les écoles, il a déjà 18 ans, il travaille aujourd'hui comme missionnaire dans les écoles, dans la communauté où il a grandi. Il partage l'évangile avec les ados de cette communauté. Tu veux passer? Il est à peine un des plusieurs ados et jeunes avec qui on a travaillé cette année. Au long de 2022, on a atteint plus de 2000 ados dans les écoles, partageant l'évangile avec eux. On a travaillé dans 5 écoles au Brésil, on a envoyé plus de 30 missionnaires et on a formé 3 églises avec une formation spécifique pour le travail dans les écoles et avec les ados. Tu peux passer. Dans ces images, vous voyez dans l'image à votre gauche un membre du conseil municipal de la ville d'Osasco. La ville d'Osasco est dans la région de São Paulo. Elle a à peu près 1 million d'habitants. Et ce membre du conseil municipal, Paulo Junior, il nous a ouvert plusieurs portes d'opportunités au long de cette année. Il nous a permis d'établir un partenariat avec le conseil de l'éducation municipale qui a ouvert 52 écoles, lycées et collèges, pour qu'on puisse travailler dans ces écoles. C'est à peu près 100 000 adolescents qu'on va pouvoir atteindre au long de l'année 2023, de l'âge de 11 à 18 ans. Et donc, on est en ce moment en train de chercher des partenariats dans cette ville avec des églises locales qui peuvent recevoir nos équipes pour pouvoir travailler dans ces écoles. Et nous cherchons aussi des fonds pour soutenir ce travail au Brésil, pour qu'on puisse vraiment atteindre ces 100 000 ados au long de l'année 2023. Tu peux passer. Alors, je veux vous inviter à se joindre, à continuer à prions en prière avec moi pour le Brésil. Aujourd'hui, c'est le second tour des élections présidentielles au Brésil. C'est une élection qui provoque une polarisation de la société. C'est une élection assez compliquée. Donc, priez, s'il vous plaît, pour le Brésil. Et prions aussi pour la recherche des fonds au Brésil pour soutenir l'organisation et aussi pour des nouvelles églises partenaires dans la ville d'Osasco pour qu'on puisse atteindre ces 100 000 adolescents dans l'année de 2023. Tu peux passer. Prie aussi pour mon retour au Brésil. Je repars demain matin. Et pour passer encore quelques mois là, normalement, je suis là sur Genève en décembre pour passer quelques jours avec ma famille pour le Noël et la nouvelle année, avant de repartir l'année prochaine, encore une fois, au Brésil. Et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup.
Alors, j'invite Philippe et nous-mêmes, et si quelqu'un veut le faire dans la communauté, à prier pour Joshua, pour son ministère, pour ce travail, et puis aussi à prier pour ce Brésil. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, enfin ce week-end, il y a ces élections. On ne va pas prendre de position, mais c'est vrai que ça peut créer des grandes difficultés. Alors voilà, prions pour notre ami. Seigneur Jésus, merci beaucoup parce que tu es celui qui nous remplit, qui nous envoie, qui a envoyé Joshua là-bas au Brésil. Nous te prions pour lui, nous le bénissons en ton nom, croyant que tu vas le soutenir, l'encourager, le remotiver toujours et toujours pour ce travail avec toute l'équipe qui est avec lui. Nous le bénissons tout simplement aujourd'hui, Seigneur, en ton nom. Amen.
Cher Seigneur, je te prie de créer les circonstances dans cette ville où Josh et son équipe travaillent pour que de nouveaux partenaires se lèvent afin que ces nombreux étudiants puissent être atteints. Merci de créer ces ressources. Tu es un Dieu étonnant et nous te faisons confiance pour la suite. Prions pour le Brésil, pour ce dimanche d'élection, pour ce qu'il peut en découler. Seigneur, s'il te plaît, mets ta paix et accorde des hommes et des femmes de paix à la tête de ce pays, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen.
Merci.
Bon retour.
Bon retour, ouais. Merci.
Voilà, bonjour à tous. Hier, c'est terminé la grande semaine, que j'appelle la grande et belle semaine. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'assez incroyable. Il y a eu de la vie dans ces locaux, hein, Philippe. On a été témoins. Ceux qui sont venus nous rendre visite ont été témoins. Je passais au milieu de la journée, là, le long de la route, et tout d'un coup, je vois tous ces enfants là dehors qui poussent des caisses à savon autour de la chapelle. Il y avait des ateliers d'or au soleil. La cuisine, c'était presque Hiroshima. Mais voilà, on a vécu quelque chose d'incroyable. On aimerait remercier la communauté de nous avoir mis à disposition ces locaux qui ont été parfaitement adaptés pour ce que nous avons vécu. Nous avons eu 25 enfants de différents milieux. On a distribué 3500 flyers dans Mérin. Et on a eu deux enfants qui sont venus grâce aux flyers. Un enfant vit à Nantes avec sa maman. Son père travaille au verger. Il avait la garde de l'enfant pendant cette semaine. Qu'est-ce que je fais de cet enfant? Il a eu le flyer, cet enfant était là. Certains sont arrivés avec le visage fermé, qui n'avaient pas envie de venir, sont repartis avec les yeux pétillants, avec quelque chose qu'ils ont reçu pendant cette semaine. On était une quinzaine d'encadrants. En tout cas, voilà, il y a quelques ans, ouais, c'est dur à nommer tout le monde, voilà, mais de la communauté a participé. Pour faire court, on va vous montrer 2 minutes 50 de vidéo de ce qui s'est passé pendant la semaine avec le vernissage vendredi à 18h. Le thème de la semaine, c'était « Waouh ». Les enfants ont reçu beaucoup et on a semé et voilà, le Seigneur fera germer. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so light, I can see your heart in it. Every burning star signals our grace. And if creation sings your praises, so will I. Don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature so alive, I can see.
Je vous demanderai de vous lever pour le mot de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse donc de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.
Alors, nous restons debout pour chanter « Chaîne d'amour ».
Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à
chaîne d'amour. Oui, chaque cœur est maillot dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
Oui, chacun. Oui, chacun
des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.